Merci d'écouter Fréquence Mistral, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information de Fréquence Mistral proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, à Digne, les lycéens de Pierre-Gilles de Gênes ont été sensibilisés à la lutte contre le harcèlement scolaire. Odile Frison a suivi un théâtre-forum. La médiathèque de Château-Arnoux va faire peau neuve. Nous entendrons le reportage de Chris Alessandri. La coopérative d'initiative Jeunes Sud accompagne les moins de 30 ans dans une approche concrète du monde du travail. Reportage dans ce magazine. Préserver l'environnement et la biodiversité, c'est sauver les libellules. Un institut de recherche met en œuvre un plan sur 10 ans pour la conservation des zones humides. Nous en saurons plus dans un instant. La maison Nature et Patrimoine de Castellane propose une exposition sur des fossiles locaux. Visite guidée dans ce magazine avec Véronique Herman. Quels étaient les gros titres de la presse à Briançon le 4 juin 1921 ? Infanticide, moutons égarés et repas d'anciens militaires. Grâce au petit Briançonnais, nous ferons un voyage dans le temps. Digne, des lycéens sensibilisés au harcèlement scolaire.
Des actions contre le harcèlement scolaire sont mises en place au sein du lycée Pierre-Gilles de Gênes depuis 3 ans. La pandémie a perturbé la vie de l'établissement, mais les actions de sensibilisation ont pu avoir lieu récemment. Parmi celles-ci, un théâtre-forum organisé par les ambassadeurs de lutte contre le harcèlement pour les élèves de seconde. Stéphane Diudès, conseiller d'éducation, répond aux questions d'Odile Frison. Puis nous entendrons Maria Mataïch, élue au conseil académique de Villiers-CN, également ambassadeur. Et enfin, la réaction d'un lycéen à l'issue du théâtre-forum.
Stéphane Viudès, vous êtes conseiller d'éducation au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Aujourd'hui, c'est un théâtre-forum de sensibilisation par rapport au harcèlement scolaire.
Oui, nos ambassadeurs de lutte contre le harcèlement scolaire organisent ces séances de théâtre-forum à destination des classes de seconde. Un projet qui avait été préparé l'an dernier, mais en raison de la crise sanitaire, il avait été reporté. Dans le cadre de la semaine de lutte contre le harcèlement scolaire que nous organisons, nous avons organisé avec les élèves un escape game, des jeux de piste, des concours et des sensibilisations. Et pour ces 2 dernières journées, c'est le théâtre-forum. Donc des élèves, ambassadeurs contre le harcèlement, écrivent des scénettes qui jouent devant leurs camarades de seconde. Il y a une problématique qui doit émerger et le public est là pour corriger le scénario. Le public volontaire vient sur scène et joue la solution qu'il propose. Et ensuite, il y a un petit débat. Voilà le principe du théâtre forum.
Est-ce que le lycée Pierre-Gilles de Gênes a connu des cas de victimes de harcèlement ?
Oui, comme tous les établissements de France, écoles, collèges, lycées, les statistiques nationales montrent qu'il y a 10% des élèves victimes de harcèlement scolaire. Voilà, donc quand on cherche, on trouve des cas. Quand on sensibilise, il y a des élèves qui viennent nous voir, qui nous disent qu'ils n'ont pas été harcelés, mais qu'ils sont embêtés ou qu'ils ne se sentent pas bien. Ça peut déclencher des phobies scolaires. Donc oui, nous sommes touchés comme tous les établissements de France.
Vous êtes Maria Mataïch, élue au CAVL et au CNVL. Ça veut dire quoi, ça ?
CAVL, c'est le Conseil académique de Villiers-CN et CNVL, c'est le Conseil national de Villiers-CN. Ce sont des instances de consultation et de la démocratie lycéenne à 2 échelles différentes.
Quel est votre rôle ?
Mon rôle dans les instances du CAVL et du CNVL, c'est de représenter les lycéens de ma circonscription quand je suis au CAVL et les lycéens de toute l'académie d'Aix-Marseille quand je suis au CNVL.
Vous êtes ambassadeur contre le harcèlement ?
Oui, je suis ambassadeur contre le harcèlement de mon lycée avec mes camarades.
Alors aujourd'hui, c'était donc la 2e représentation. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes plutôt satisfaite des réactions des élèves ?
Oui, je suis plutôt satisfaite parce qu'on remarque des personnes dans les classes de seconde qui s'intéressent à la problématique et qui ont des choses à dire, qui ont des solutions à proposer et qui ont envie de s'impliquer et de défendre les personnes qui sont harcelées. Et on a même des personnes qui veulent rejoindre la troupe pour l'année prochaine. Et c'est très important du coup d'avoir des personnes qui sont prêtes à représenter les autres, à être des figures, des personnes que les harcelés ou même les témoins peuvent contacter en cas de harcèlement.
Comment on devient ambassadeur contre le harcèlement ?
Alors cet engagement, il est très très simple. Il suffit juste de contacter quelqu'un qui est dans le groupe ou même d'aller voir un des CPE pour pouvoir demander à rejoindre et s'impliquer. Et puis c'est assez libre, c'est-à-dire que si on ne veut pas faire des représentations sur scène, on peut trouver d'autres projets ou discuter, sensibiliser avec les autres membres du groupe. Et du coup, c'est vraiment très libre comme engagement et comme titre.
On voit bien sûr qu'il y a des élèves de seconde, donc aujourd'hui, qui s'investissent, qui jouent le jeu, et d'autres qui ont l'air beaucoup plus distants. Ça, c'est aussi, ça fait partie du jeu.
Ben oui, bien sûr. Après, c'est comme ça même dans les salles de classe. On a des personnes plus discrètes et d'autres qui prennent plus de parole. Mais l'important, après, c'est pas qu'ils participent là aujourd'hui dans la répétition, c'est qu'ils soient vraiment sensibilisés au harcèlement et que le jour où ils sont confrontés à cette situation, que ce soit en tant que victime ou témoin ou même suiveur, ils puissent réagir. Le but, c'est de leur donner les outils pour réagir. Il y a différentes échelles, il y a des médiations qui sont en interne dans l'établissement et d'autres cas qui sont beaucoup plus graves et qui nécessitent d'aller devant la justice. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Ça peut être très difficile pour les personnes de parler, mais déjà le dire à quelqu'un, que ce soit un CPE ou même juste un ou une élève qui peut les aider, c'est très important et ça permet justement d'agir, comme vous l'avez dit, en fonction des lois.
Est-ce qu'on ne peut pas reconnaître une personne harcelée par juste simplement la voyant, son comportement ?
Si, en soi, souvent les personnes harcelées sont isolées, se sentent un petit peu seules et n'osent pas forcément parler. Mais même, on peut assister à la scène de harcèlement et du coup reconnaître l'acte en lui-même, même tous les jours, quand on voit que c'est une moquerie qui est répétée, se rendre compte que ce n'est pas juste une blague entre camarades, mais un vrai harcèlement.
Dans vos scènes, vous avez fait plusieurs scènes qui traitaient l'homophobie, la grossophobie. Comment vous est venue cette écriture de scène ?
On s'est inspiré de tous les stéréotypes, de toutes les moqueries qui pouvaient déjà exister, les plus banales, peut-être en les exagérant un petit peu, mais on l'a vu avec les classes de seconde, à chaque fois qu'on fait une scénette, on demande si c'est réaliste, si ça pourrait se passer dans la vraie vie, et souvent les élèves nous répondent oui, même si c'est peut-être un petit peu exagéré, ils pensent que ces moqueries, elles peuvent exister, que cet isolement et cet acharnement, cet harcèlement contre quelqu'un peut réellement exister et est présent dans les établissements scolaires.
Vous n'avez pas parlé de violences physiques parce que ça arrive aussi.
Tout à fait. On n'a pas parlé des violences physiques parce que bon, c'est compliqué à jouer dans une scénette et même quand on fait intervenir les élèves vu que c'est un théâtre forum et interactif. Mais c'est une réalité du harcèlement. J'aimerais rajouter que le harcèlement, c'est une problématique dont chacun est responsable et chaque élève du lycée est concerné. Il n'y a pas un établissement qui est épargné, une classe qui est épargnée. C'est vraiment tout le monde est concerné et ça concerne aussi les élèves à toutes les échelles. Donc comme j'ai dit, au CAVL et au CNVL, c'est aussi une problématique qu'on se pose. Il y a des concours nationaux qui sont organisés pour justement sensibiliser avec différents projets créatifs. Mais nous-mêmes, on réfléchit à des solutions de sensibilisation.
Est-ce qu'il y a des pourcentages filles ou garçons ?
Alors, je n'ai pas connaissance des pourcentages filles-garçons, mais je sais que, selon l'éducation nationale, un élève sur 10 serait victime de harcèlement.
Filles ou garçons ?
Filles ou garçons confondus.
Je m'appelle Gabriel Villain-Bucher et je suis en seconde.
Vous avez assisté à ce théâtre forum, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est une bonne initiative de la part des élèves qui s'impliquent vraiment dans les luttes contre le harcèlement.
Et vous pensez que ce genre de proposition peut aider les éventuels harceleurs à modifier leur comportement ?
Je trouve que ce genre de proposition, c'est toujours bien de le montrer. Parce que souvent, les gens, quand ils le voient, ils sont souvent pris au dépourvu. Du coup, de se préparer au moins un peu à l'avance, ou au moins de voir une des situations ou les situations dans lesquelles on peut être mis, c'est toujours bien.
Vous pensez que c'est facile d'intervenir quand on est témoin de harcèlement ?
Non, c'est pas facile. Mais il faut le faire parce que c'est peut-être stressant, mais ça c'est toujours moins que pour la personne qui le subit.
Château Arnoux-Saint-Auban, une médiathèque New Look.
La semaine dernière, une rencontre a eu lieu avec les élus de Provence-Alpes Agglomération pour le lancement du chantier de réaménagement du centre culturel Simone Signoret. Un projet élaboré dans une logique bioclimatique de type éco-quartier et qui impose la fermeture de la médiathèque pendant 3 mois. La réhabilitation du centre culturel et de ses abords sur le plateau des Lozières prévoit l'extension du hall d'entrée et la création d'espaces de sociabilité pour le cinéma, également un nouvel espace dédié au restaurant, la requalification de la façade nord-est de la placette et aussi une simplification du volume de la médiathèque en comblement des échancrures et la démolition-reconstruction de l'escalier existant. Maire de l'Escale et vice-président délégué au développement et à la communication de Provence-Alpes Agglomération, Claude Fiert répond aux questions de Chris Alessandri. Puis nous entendrons René Villard, maire de Château-Arnoux-Saint-Auban, et Agnès Haïli, qui dirige les médiathèques de l'agglomération. Claude Fiert.
Alors c'est un très gros investissement que va faire Provence-Alpes Agglomération au sein du centre culturel, puisqu'on a eu pour 2,5 millions d'euros d'investis. Cette réhabilitation va consister notamment à rénover la médiathèque Louis-Joseph, mais pas uniquement, puisqu'on va aussi travailler sur le cinéma, travailler sur le restaurant, faire notamment de la rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments, pour donner de meilleures conditions de travail à l'ensemble des agents qui travaillent dans le pôle culturel. Et on repense l'ensemble de ce pôle pour y donner aussi un aspect visuel plus de notre temps.
Alors à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va voir durant ces travaux ?
Alors de l'extérieur, on va voir beaucoup de choses bouger petit à petit, mais l'ensemble des bâtiments n'est pas touché. On va voir un réaménagement des accès, les arches vont disparaître pour donner plus de visibilité sur l'ensemble du pôle culturel. On va travailler aussi sur les nouveaux modes d'information, sur notamment ce qui va remplacer à terme les affiches. On va donner un autre aspect visuel aussi à l'ensemble de notre centre culturel qui en a bien besoin.
Donc peau neuve, une situation qu'il fallait régler rapidement ?
Alors oui, rapidement, c'était surtout l'information aux abonnés de la bibliothèque, puisqu'elle va fermer le 1er juin, donc la semaine prochaine. Donc c'était important qu'ils soient informés. Après, les travaux ont commencé petit à petit par des phases de désamiantage, d'organisation. Donc ça va pas être le branle-bas de combat dès le 1er juin pour le reste du bâtiment. Mais c'était surtout vis-à-vis des abonnés et des usagers de la médiathèque qui était important de les informer.
René Villard, de quelle façon vont être opérés les travaux ici même sur ce lieu ?
Les travaux, c'est l'agglomération, c'est P2A qui s'en préoccupe. Donc je crois que pour ce qui nous concerne, moi ce que je suis ravi, c'est que le service public va continuer. C'est quelque chose de fort pour nous, parce qu'aujourd'hui il y a 1500 abonnés à la médiathèque de Château-Arnoux-Saint-Auban. Et je pense qu'il était important de transférer dans d'autres locaux pendant les travaux cette médiathèque. Je crois que c'est important.
René Villard, c'est pas évident de faire face justement à cette demande, parce que le potentiel il est là, de personnes qui sont fidèles et qui sont habituées à ce rendez-vous.
Oui, mais c'est comme de partout, quand on fait des travaux, à un moment donné, il y a des inconvénients, et les inconvénients sont le temps des travaux. Et je crois qu'au niveau de P2A, il n'y aura pas de problème. On va mettre en place un calendrier et s'y tenir. Et je sais que le désagrément que les gens vont avoir, ben, ils seront compensés par le fait qu'il va y avoir quand même 200 mètres carrés pour accueillir les livres, 20 000 livres qui vont être mis dans cet espace. Ça permettra aux gens quand même de continuer à pouvoir venir chercher des livres comme ils le faisaient auparavant, en dehors du fait qu'ils n'auront pas peut-être tous les livres qu'ils souhaiteraient avoir, parce que bon, il faut bien, ils ont parlé de 65 000 livres et 20 000 livres, il est bien évident qu'on ne pourra pas tout avoir au même endroit. Donc c'est les désagréments qui font que pendant les travaux, ben, ça sera comme ça, mais c'est 18 mois de travaux et après tout redeviendra normal et on aura une médiathèque tout à fait rénovée avec 80 mètres carrés de plus pour accueillir d'autres espaces. Je crois que c'était important que ces travaux se fassent.
Agnès Haïli, pour parler du territoire au niveau de l'impact, de quelle façon est-ce que vous allez ressentir ces travaux ici à Château-Arnoux ?
Pour nous, les travaux à Château-Arnoux, concrètement pour le service public, on espère qu'il y aura un minimum de désagréments. Comment on va les ressentir ? En fait, très positivement, c'est assez enthousiasmant de travailler sur un projet de bâtiment, parce qu'on en attend beaucoup au niveau du confort thermique, et on en attend aussi beaucoup ensuite au niveau des possibilités de services rendus au public. L'idée, c'est d'avoir un aménagement des collections qui soit plus lisible et peut-être plus spacieux aussi, et puis de pouvoir avoir une offre notamment sur les services informatiques et numériques un peu plus étoffée, parce que c'est vrai que là c'était pas le point fort de cette bibliothèque, donc on attend en fait c'est les principaux points d'amélioration.
Et vous-même en tant que professionnel, dans quel état psychologique vous êtes vis-à-vis donc d'une fermeture, parce que là on perd un peu le contact?
Alors on a une fermeture en effet de 3 mois finalement, hein. On va avoir les mois d'été et le mois de juin. Alors à chaque fois, en tant que bibliothécaire attaché au service public, ben, c'est ce qu'on essaye d'éviter au maximum. Donc voilà, on sait qu'il y a la bibliothèque des Mets qui pourra offrir un service aux gens qui se déplaceront. Mais voilà, on sait aussi que c'est un incontournable pour ensuite enchaîner sur 18 mois de travaux. On est obligé de faire cette fermeture ben, pour mettre en carton, tout simplement, pour préparer le travail des déménageurs, puisque là, les collections, on ne peut pas uniquement leur demander de le faire eux-mêmes, puisque les collections iront pour une part dans les locaux qui resteront ouverts, et ensuite elles iront pour l'autre part dans des locaux de stockage temporaire. Et en fait, du coup, ça nous oblige à faire, ça va obliger l'équipe à faire elle-même le tri et elle-même les cartons. Donc, sur l'ensemble des collections, plusieurs dizaines de milliers de documents, c'est quand même du temps. Donc, voilà, on le vit tous parce que les agents sont très attachés au contact, au quotidien, avec un public qui sont vraiment de proximité, donc ils connaissent très très bien. Donc voilà la difficulté, la façon au contraire de faire passer cette perte de service, c'est d'imaginer et de se projeter sur un bâtiment qui permettra de mieux recevoir les gens et puis c'est des travaux qui ensuite normalement amélioreront les choses pour au moins une vingtaine d'années. Donc finalement 3 mois, 20 ans, bon, on se dit que ça vaut le coup.
Coopérative d'initiative jeune pour découvrir le monde du travail.
Soutenu par la région et l'Europe notamment, le dispositif s'adresse aux moins de 30 ans. Tout jeune ayant un projet ou une idée peut bénéficier de l'écoute et l'accompagnement d'une équipe dédiée. Il s'agit d'appréhender le monde du travail en développant la capacité d'entreprendre individuellement ou collectivement. Création et gestion d'entreprise sont présentées en groupe et en particulier selon les projets. L'aide et le soutien sont concrets et la coopération se fait naturellement. Basée à Fort-Calquier, la coopérative Jeune Sud peut accueillir des candidats jusqu'à la fin 2021. Renseignements et inscriptions sur coop-jeune.com. Écoutons les accompagnantes de la structure, Christiane Carl et Aurélie Frontil. Christiane Carl, qu'est-ce que c'est que cette coopérative d'initiative Jeune Sud ?
C'est une coopérative qui est destinée, comme son nom l'indique, aux jeunes de ce territoire. Elle est basée sur un modèle qui existait depuis une dizaine d'années, qui sont les coopératives d'activité d'emploi, qui visent en fait à accompagner les personnes qui veulent créer leur activité, dans quelque domaine que ce soit, mais qui veulent vraiment se consacrer à cette activité et qui sont, j'allais dire, un peu en difficulté pour tout ce qui relève de la gestion et de l'accompagnement quotidien.
Ça intéresse donc au premier chef les jeunes.
Cette coopérative-ci, oui, elle intéresse au premier chef les jeunes de 18 à 30 ans.
C'est vous qui avez eu cette idée de développer ça sur le pays de Fort-Calquier. Comment vous est venue cette idée et comment ça fonctionne ?
Justement, cette idée m'est venue puisque nous avons créé avec d'autres collègues, il y a une dizaine d'années, le même genre de coopérative, mais destinée cette fois-ci à des personnes plus âgées, peu importe, et autour de la thématique du patrimoine et du bâtiment. Cette coopérative elle est née à Fort-Calquier, elle a son siège social à Fort-Calquier, dans les mêmes locaux, mais elle rayonne sur toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et elle a ce jour 150 entrepreneurs qui sont au sein de la coopérative. Donc sur le même modèle, j'ai trouvé que c'était intéressant de s'intéresser en particulier aux jeunes de ce territoire.
Comment est-ce que vous avez procédé pour essayer d'attirer les jeunes sur votre projet ?
Alors c'est bien ce qui est un petit peu compliqué. Vous le savez, je suis militante de ce territoire depuis plus de 40 ans. J'ai eu l'occasion, au travers aussi de l'association Alpes de Lumière que je dirige, de voir, de trouver plein de jeunes qui ont plein d'idées, mais qui ont du mal à les mettre en œuvre parce que c'est compliqué de monter d'entreprise. Donc là, en l'occurrence, c'est leur faire comprendre qu'ils peuvent développer leur activité, mais qu'on va les soulager de tout ce qui leur semble rébarbatif, compliqué. Et en même temps, ils intègrent, on va dire, presque une communauté d'entrepreneurs.
Avec également une formation, des conseils qui sont délivrés ?
Absolument. D'abord des conseils depuis l'idée jusqu'à la gestion du projet. Et puis ensuite, quand ils rentrent réellement dans le projet, ils sont continuellement accompagnés, ils sont formés à tout ce qui relève de la gestion d'une entreprise.
À vos côtés, la chargée de mission justement pour cette coopérative de jeunes, Aurélie Frontil, comment ça se passe au quotidien avec les jeunes qui vous ont rejoints ?
Eh bien, on les écoute, on essaye d'être dans la bienveillance. Et puis, notamment, on écoute leurs ambitions, leurs idées. Et avec eux, on essaye de développer justement une trame par rapport à un business plan, par rapport à des études de marché, études de la concurrence, études des fournisseurs. Et par rapport à ça, peu à peu, on fait des études personnalisées, individuelles pour chaque jeune de 18 à 30 ans. Et on essaye peu à peu de l'amener vers son projet professionnel qui devienne architecte et créateur de sa propre entreprise et qui devienne en fait, qui monte peu à peu en fait comme une maison, les fondations de son projet. À ce stade, on a déjà deux créateurs, enfin deux personnes que nous avons accompagnées qui sont créateurs d'entreprises.
Dans quel domaine ?
Alors, il y en a deux qui sont dans entreprises de paintball, au lac des Buissonnades notamment. Et puis, une autre personne en boutique, une e-boutique, shop boutique de vêtements en ligne. Et puis, là, il y a une autre personne qui essaye de se mettre aussi à son compte en bijouterie artisanale, céramique, porcelaine.
Quand les jeunes viennent vous voir, ils sont animés de rêves, parfois même d'utopie. Comment vous recevez ça ?
Ben plutôt bien, justement. On essaye de voir avec eux, de faire un diagnostic le plus, on va dire, le plus positif, de voir justement, de détailler les points positifs avec eux, mais également voir ensuite les freins, qu'est-ce qui peut, au cours du temps ou même à court terme, les freiner dans l'aboutissement de leur projet. On est là avec des formations de comptabilité, de gestion ou autres, d'essayer de les orienter ou les réorienter pour qu'ils aient un maximum d'outils ou de clés pour justement affronter, si je puis dire, leur projet.
Alors, il y a une gestion à la fois de groupe, mais en même temps, une gestion individuelle des personnes qui vous rejoignent ?
Oui, totalement. Les personnes que nous accompagnons, on essaye d'avoir un suivi assez régulier, justement tous les 15 jours ou tous les 3 semaines au maximum, justement pour pas qu'ils se perdent en route dans leur cheminement de création. Et régulièrement, donc, on avance et on essaye de leur demander un petit travail conséquent sur leur création. Par exemple, de travailler leur business plan, de travailler l'étude de concurrence, etc.
Si on veut rejoindre votre coopérative, est-ce que c'est possible et comment ça se passe ?
Oui, vous pouvez à tout moment nous contacter. Si vous avez de 18 à 30 ans, nous contacter au 07 77 05 21 12 ou sinon sur notre site en ligne coop-6jeune.com.
C'est un dispositif qui perdure jusqu'à quand ?
Il perdure jusqu'à la fin de l'année pratiquement. Il sera certainement reconduit.
Un plan d'action sur 10 ans pour sauver nos libellules.
Dans nos régions comme ailleurs, les libellules et leur habitat, que sont les zones humides, sont menacées par les activités humaines. Citons l'artificialisation des sols ou l'usage des traitements phytosanitaires. Philippe Lambré est chef de projet à l'Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes, la Tour du Valat, et également coordinateur de la déclinaison en Provence-Alpes-Côte d'Azur du plan national d'action en faveur des libellules. Au micro de Mathieu Marc, il présente ce plan ambitieux qui se décline au niveau régional sur 10 ans et qui s'articule autour d'une douzaine d'actions. Philippe Lambré.
Alors l'objectif principal de ce plan, c'est de favoriser les libellules, de faire en sorte que leur état de conservation soit meilleur qu'actuellement. Après, on peut voir les libellules également comme un levier qui va nous permettre d'agir pour la conservation des zones humides en général. Par zone humide, on entend les petites mares temporaires, les rivières, les petites rivières, les petits cours d'eau. À partir du moment où on a de l'eau dans un milieu terrestre, on parle de zone humide. Et ces habitats ont été été énormément dégradée par les activités humaines. Et comme les libellules, ce sont des insectes qu'on voit souvent voler, mais n'oublions pas qu'elles ont des larves qui sont aquatiques, bah, elles sont extrêmement dépendantes de ces zones humides, de ces milieux aquatiques. L'état de santé, on pourrait dire, des libellules s'en est vu profondément affecté. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire machine arrière. Et si on réussit à faire ça, ça voudra dire qu'on aura très certainement réussi à également améliorer l'état de santé des zones humides.
Quelles sont les causes directes de leur disparition ?
Alors la disparition de leurs habitats, c'est lié aux activités humaines. Ça va être la construction d'entrepôts de stockage, de plateformes logistiques. Ça va être la construction de supermarchés. Ça va être la construction d'autoroutes. On assiste à l'artificialisation directe des habitats. Mais il y a eu aussi énormément de disparition des zones humides par le drainage des milieux, parce que il y avait trop de moustiques, parce qu'on ne pouvait pas y faire d'agriculture. Après, on a eu également une dégradation de la qualité des zones humides. Ça peut être par exemple avec des polluants ou avec des résidus d'engrais, de pesticides, etc.
Et concrètement, quelles sont les actions que vous menez ? Comment ça se passe ? J'imagine qu'il y a un travail de terrain ?
En fait, il y a eu un premier plan d'action pour les libellules de 2010 à 2015. Ce premier plan d'action a essentiellement consisté à améliorer les connaissances. Il y avait des trous dans les cartes, si vous voulez. Il y avait plein d'endroits où on connaissait pas forcément quelles étaient les libellules qu'on pouvait y rencontrer. Maintenant, ces connaissances de terrain, on les a bien. On va essayer de passer à une autre dimension qui est l'intervention directe sur les milieux humides. Ça va être, par exemple, sur un cours d'eau dont le tracé a été rectifié, qui a été particulièrement impacté par les activités humaines. Je pense à la Durance, par exemple. On va essayer de rendre un petit peu son tracé plus naturel pour recréer des micro-habitats qui vont être favorables à certaines espèces. Donc effectivement, il y a un travail de terrain, modifier les milieux, essayer de les soigner, et puis ensuite voir si ça fonctionne. Et voir si ça fonctionne, ça veut dire voir si les libellules reviennent ou pas, ou si elles étaient encore présentes, si elles ont de meilleurs effectifs.
Et c'est un plan sur 10 ans. Il faut un certain temps pour mener ce type d'action.
On se rend compte effectivement que pour pouvoir observer les bénéfices d'actions de restauration, on a besoin de temps. Notre société va de manière très rapide. C'est pas parce que l'homme met en place des pas de temps de 3 ou 4 ans que la biodiversité, elle, va répondre sur ce pas de temps-là. Donc il a été souhaité que ce plan national d'action se déroule, lui, sur 10 ans. Et puis très certainement qu'au moment où on fera le bilan de ces actions, on aura beaucoup plus de capacité d'observer si les objectifs ont été atteints, si les résultats sont satisfaisants ou pas.
Quels sont les acteurs mobilisés pour ce plan ?
On a tout d'abord des partenaires techniques, donc ce sont les gens qui vont pouvoir réaliser les opérations sur le terrain, les opérations de restauration, qui parfois... qu'est-ce que ça veut dire restaurer un milieu ? Quand on va recharger la Durance en granulat pour recréer des méandres, ça se fait pas avec une pelle et un seau. Ça va se faire avec des engins qui sont beaucoup plus grands. Quand on restaure des mares temporaires méditerranéennes, c'est pareil, on va le faire avec des pelles mécaniques. Donc il y a les partenaires techniques, ça va être ceux qui sont capables de mettre en œuvre de telles actions. Ensuite, les partenaires techniques, ça va être ceux qui sont capables d'observer les libellules, de relever des informations scientifiques en relation à ces populations de libellules. Ça va être ceux qui vont être capables, si le milieu existe déjà, d'avoir une action directe par une gestion hydraulique, par exemple, par une pression de pâturage, par une maîtrise de la pression de chasse. Je pense par exemple au Conservatoire des espaces naturels de PACA, je pense à la LPO et à l'OPI Provence-Alpes-Côte d'Azur qui récolte énormément de données sur la présence des libellules dans notre région. Ce sont deux exemples de partenaires techniques. Ensuite, on va avoir des partenaires institutionnels. Un partenaire institutionnel, ça va être par exemple les parcs naturels régionaux qui, eux, ont une action en entrant dans une logique de conservation au niveau des territoires. Et puis après, des partenaires très importants sont les partenaires financiers qui, eux, vont directement faire en sorte que ces actions sont possibles. Parce que bien évidemment que faire venir une pelle mécanique sur un terrain ou mettre en place des actions de gestion... bah, ça représente du travail humain, donc forcément ça représente du salaire, ça va représenter du matériel, donc il faut bien financer tout ça. Donc un financeur, par exemple, ça va être la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça c'est un financeur qui est bien pressenti. Après, un partenaire incontournable, il faut pas oublier que c'est la DREAL aussi, la Direction Régionale de l'Environnement, avec qui on travaille en étroite collaboration dans le cadre de ces déclinaisons et également à l'échelle nationale.
Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter par rapport à ce plan national d'action en faveur des libellules ?
Eh ben, j'espère de tout cœur qu'il va fonctionner. On sent qu'il y a une crise à venir, hein, et puis on a déjà un premier pied dedans avec ce réchauffement climatique. Pourtant, il y a une crise qui est déjà bien entamée, c'est la crise de la biodiversité. Et en fait, elle témoigne tout simplement de la dégradation de notre environnement, de la dégradation de notre planète. Et puis quand on prend un petit peu de recul, ou même beaucoup de recul, bah, on se rend compte que nous aussi, nous habitons sur cette planète, que nous sommes une espèce animale. Hein, l'homme Homo sapiens, c'est une espèce animale qui dépend complètement de son écosystème. Et puis si l'écosystème est déréglé, bah, forcément, ça va avoir des conséquences sur nous-mêmes, sur notre propre santé, mais également sur celle des générations futures.
Temps fossile, temps présent.
Il y a des milliers d'années, le territoire actuel des Alpes de Haute-Provence était submergé et accueillait une faune disparue. Puis au fil du temps, grâce à l'érosion, ammonites et autres fossiles furent fixés, figés, et on en découvre encore de nos jours remarquablement conservés. En collaboration avec le FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain, la Maison Nature et Patrimoine de Castellane propose l'exposition « Temps fossile, temps présent » avec des pièces exceptionnelles, toutes basalpines. Visible jusqu'au 31 octobre, l'exposition promet de belles surprises aux amateurs de fossiles et d'art contemporain. La chargée de mission de la Maison Nature et Patrimoine fait découvrir le contenu de quelques vitrines à Véronique Herman, Adeline Ranson.
Temps fossile, temps présent, ça réfère à ce territoire qui est très connu grâce à ses fossiles, la vallée des Sirenias à Castellane, la Dalloz Ammonite à Digne, et puis beaucoup d'autres lieux dans les Alpes d'Haute-Provence qui sont très riches de fossiles, d'ammonites notamment, que vous allez pouvoir retrouver dans cette exposition. Et temps présent se réfère à ces œuvres d'art qui proviennent du FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain, qui permettent de donner une autre mesure à ces fossiles. Ce sont des artistes qui ont travaillé autour du paysage, de la matière, de la roche, et qui nous permettent d'aborder eh bien, cette vision des paysages d'une autre manière, avec un œil neuf, avec notre œil d'aujourd'hui.
La Maison Nature et Patrimoine est rentrée en partenariat avec le FRAC.
Cette année, nous avons notre premier partenariat avec le FRAC de Marseille. C'est le Fonds Régional d'Art Contemporain. C'est un fonds que l'on trouve dans chaque région de France et qui a pour mission de diffuser l'art contemporain en région. Donc vous trouvez une exposition dans leur bâtiment de Marseille, mais vous trouvez aussi de nombreuses œuvres prêtées dans des musées, dans des galeries, dans des lieux culturels, dans des petites communes comme Castellane. Ça permet de diffuser l'art actuel dans des petites communes.
Quelles sont les curiosités que le visiteur va pouvoir découvrir?
Il y a notamment une ammonite qui est assez impressionnante, qui fait 70 cm de diamètre et qui est la plus grande connue de son espèce et donc qui a été découverte à Tartonne, qui est également le lieu où a été découvert le plésiosaure, qui est aussi unique en son genre et dont vous pourrez voir le moulage ici. Ce plésiosaure, c'est l'ancêtre du monstre du Loch Ness. C'est lui qui a donné lieu à cette légende. C'est un grand animal marin, qui a une sorte de grand corps de phoque avec de grandes nageoires et un très long cou et une petite tête. Si vous avez dans votre imaginaire le monstre du Loch Ness, et eh bien c'est lui et vous trouverez également ce moulage.
En quelle année ce fossile a été trouvé?
En 2015 à Tartonne. De nombreuses ammonites ont été trouvées, notamment ces très grandes ammonites, et qui ont permis aussi de dater ce plésiosaure, parce que les ammonites sont différentes au fil des milliers d'années, elles changent de forme, voilà, c'est un animal qui évolue et donc elles permettent de dater des couches stratigraphiques, les strates qui forment les couches de la Terre, et de dater aussi toute la biodiversité qu'il y a autour.
Qu'est-ce que nous pouvons découvrir d'autre dans cette exposition?
Ce qui est intéressant également, c'est que l'on parle, qu'on évoque cette tradition locale qui a eu lieu à Digne de la fabrication des étoiles de Saint-Vincent. Ce sont des petits fossiles, ces étoiles de Saint-Vincent, en forme d'étoiles et qui ont été serties dans de l'argent. Donc vous voyez ici des colliers, des bracelets, une broche. Ça a été très à la mode au 19e siècle et au début du 20e siècle et ça portait bonheur. C'est très diffusé dans les Alpes de Haute-Provence et dans toute la Provence d'ailleurs. On en retrouve même jusqu'en Bretagne. Et cet artisanat s'est arrêté dans les années 60 car il n'y avait plus ces petits fossiles, il n'y avait plus de stock. Par contre, ça a été relancé il y a quelques années parce qu'il y a un joaillier qui a retrouvé un stock
d'un ancien bijoutier et qui relance cet artisanat des toiles de Saint-Vincent.
Quand on rentre, on arrive face à une accumulation d'ammonites. C'est une présentation ou c'est naturel ?
C'est naturel. Le géologue amateur qui a retrouvé cette ammonite, bien sûr, l'a retrouvée couverte de roches, elle n'était pas dans cet état. Ce sont des ammonites qui ont été mises en valeur par ce géologue amateur qui a ciselé, si vous voulez, pour enlever la roche superflue, pour retrouver les ammonites qui étaient cachées dessous et retrouver cet amas. Mais c'est pas lui qui a reconstitué. Voilà, il faut imaginer ça, bien sûr, dans un grand bloc de roches, mais absolument pas mis en valeur. Avec la collection que nous a prêtée cette personne, on peut vraiment voir que tous ces fossiles ont été mis en valeur et permettent de repérer les petits détails, vous voyez, ces bosses sur les ammonites, des pics également, toutes les différences que peuvent avoir les différentes ammonites qui ont vécu ensemble aussi. C'est pas un animal, ce sont plusieurs animaux qui ont vécu ensemble. Vous avez l'ammonite principale plus plusieurs petites ammonites qui l'accompagnent.
Alors ici, on est face
aux ammonites retrouvées avec le plésiosaure à Tartonne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, également les pics, vous voyez, sur l'ammonite. Ici, c'est une ammonite à pic, celle-ci. Et celle-ci, donc, c'est la plus grande de son espèce qui a été retrouvée, qui est vraiment très grande. Il fait 70 cm de diamètre et qui est un spécimen exceptionnel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont essentiellement des fossiles qui n'ont jamais été montrés au public. On est sur des collections inédites. Donc, ces collections appartiennent à la Réserve nationale géologique de Haute-Provence. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pourquoi on trouve tous ces ammonites, pourquoi on trouve un plésiosaure, pourquoi on trouve tous ces animaux sous-marins. C'est parce qu'auparavant, la Provence était sous l'eau. Et l'évolution des continents, l'évolution de la Terre a fait que ce taux a disparu et que ces ammonites se sont retrouvés dans de la roche. Et l'érosion a fait
apparaître
ces ammonites, ces fossiles. Alors tout n'est pas découvert, mais si on creuse un petit peu, parfois on peut retrouver un plésiosaure, on peut retrouver des ammonites exceptionnelles.
Quelle est la durée de cette exposition ?
Alors elle va durer jusqu'au 31 octobre. Et nous sommes ouverts cet été tous les jours sauf le samedi. Et en attendant, nous sommes ouverts les week-ends. En attendant juillet. Et puis bien sûr, nous, comme l'an dernier, nous allons pouvoir animer des ateliers autour de la géologie, autour de la pratique de la paléontologie, des pratiques artistiques également, comme c'est une exposition qui mêle géologie et art contemporain.
En saison estivale ?
En saison estivale, cet été, vous aurez des ateliers pour les enfants qui viennent en vacances ou les enfants de Castellane, bien sûr.
Un site internet ?
Oui, bien sûr. Alors vous allez sur maisonnaturepatrimoine.com où nous avons aussi un site Facebook et un site Instagram.
Un numéro de téléphone ?
C'est le 04 92 83 19 23. Et nous sommes à côté de la mairie, à Castellane.
Des projets en cours pour la saison d'été ?
Oui, bien sûr. Alors, nous allons avoir une autre exposition temporaire, une petite exposition de photographie des Gorges du Verdon, qui sera au premier étage et donc en accès libre et gratuit. Par la suite, cet automne, nous aurons une exposition également sur les pierres de légende en Provence, également au premier étage en accès libre. Et pour l'an prochain, nous réfléchissons à une exposition sur le textile en Provence.
Un bébé a été tué à Arvieux.
Pas d'affolement, nous ne versons pas dans le fait divers crapuleux, mais c'est un drame qui s'est passé dans les Hautes-Alpes, voilà un siècle, et qui est mentionné dans les colonnes du Petit Briançonnais. Une publication instructive que nous feuilletons avec notre équipe de Briançon. Les éditions du Petit Briançonnais sont consultables aux archives municipales de Briançon et à la médiathèque Laruche. Arnaud Gagneux, responsable des archives, présente les titres de l'édition du 4 juin 1921, dont un infanticide, au micro de Susanna Wright.
Arnaud Gagneux, vous êtes un responsable des archives municipales à Briançon. Et aujourd'hui, vous allez nous présenter le petit Briançonnais du 4 juin, il y a 100 ans aujourd'hui.
Oui, alors du coup, c'est la une du 4 juin 1921. Alors, qu'est-ce qui se passe le 4 juin 1921 dans le Briançonnais ? Alors déjà, on a la mention d'une perte de porte-monnaie qui a été trouvée au Toulousaine, donc un quartier de Briançon. Et on invite évidemment le propriétaire à se manifester auprès de la personne qui l'a trouvé, puisqu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé et qui gentiment s'est adressé au journal pour essayer de retrouver son propriétaire.
Très honnête.
Très honnête personne. Voilà, peut-être qu'en 1921, plus d'honnêtes personnes. Ensuite, on a retrouvé aussi une pompe de bicyclette qui a été trouvé, et on peut, pareil, la réclamer à la personne qui l'a trouvé, puisqu'on a Monsieur Brun qui a trouvé ça, et on peut lui réclamer. Alors, il n'y a pas son adresse, pas de numéro, évidemment pas de numéro de téléphone. Ensuite, on a la fête de l'Edelweiss, donc du coup qui est organisée par l'amicale des anciens du 159e régiment d'infanterie. Alors celle-ci se passe par contre à Paris, pas à Briançon, dans le restaurant Bon Valet, boulevard du Temple. Et on nous dit qu'il y aura un superbe banquet, un concert, voilà, et il y aura un discours du général Sérigny.
Et ils étaient invités de Briançon.
Bien sûr, puisque voilà, c'est diffusé dans le journal de Briançon, mais ils sont invités à se rendre à Paris, en tout cas ceux qui font partie de l'amicale des anciens du 159e régiment d'infanterie alpine, qui n'existe plus à Briançon. Le régiment, lui, ouais. il depuis 2008, il n'y a plus de militaires à Briançon. Et mauvaise nouvelle, à Arvieux, on a un infanticide qui a eu lieu. Donc une jeune maman qui venait d'accoucher a étouffé son enfant et l'a porté le cadavre au torrent de l'Isoard. Elle a été bien sûr arrêtée et justement emprisonnée à Briançon le temps de son transfert dans une prison correctionnelle. On a un mouton qui s'est échappé de l'abattoir de Briançon. Ce mouton-là, elle n'a pas voulu se faire couper la tête et on le recherche activement pour justement que le boucher fasse son travail.
À l'époque, on avait un abattoir à Briançon.
Oui, ouais. On avait un abattoir du coup
qui n'existe plus
aujourd'hui. Alors il faudrait peut-être lors d'un prochain trésor d'archives parler de l'abattoir, voir dans les archives qu'est-ce que nous avons comme document là-dessus.
Et ensuite il y avait quelque chose d'intéressant qui est arrivé à Briès.
Alors à Briès, on nous raconte que dans le 29 mai donc 1921, deux nomades qui étaient de passage, donc ils les appellent nomades ou forains, donc peut-être des gens de la communauté gitane, voilà, ont été accueillis dans un refuge. Et dans la personne propriétaire du refuge, voilà, à force de conversation avec ces deux personnes, sont arrivées à tirer les cartes, à prédire l'avenir, des choses comme ça. En tout cas, lui ont prédit l'avenir. Mais évidemment, au bout d'un moment, il y a eu un échange d'argent, puisqu'on parle de 10 000 francs qui auraient été donnés en fait aux deux nomades. Mais voilà, en tout cas, on apprend que l'histoire est un peu plus compliquée que ça, au bout d'un moment, je pense que il y a une histoire d'arnaque sûrement. Du coup, ben ça s'est pas très bien fini puisque au bout d'un moment, les gendarmes sont intervenus.
Est-ce qu'ils ont récupéré les 10 000 francs ?
Je pense qu'ils ont dû être arrêtés dans le refuge, donc ils ont sûrement remis l'argent directement.
Il y avait pas mal de choses qui se passaient le 4 juin 1921.
Ouais, c'est une assez mouvementée en tout cas dans le paysage local de Briançonnais et même plus loin, puisqu'on parle un peu du Queyras aujourd'hui.
Et le petit Briançonnais, c'était un journal hebdomadaire.
Donc chaque semaine, on a une à explorer. C'est un journal qui paraissait le samedi et c'est un journal qui a été fondé en 1903. Alors aux archives, on a des exemplaires jusque dans les années la fin des années 1930. Après, voilà, on n'en a plus. Alors est-ce que le journal s'est arrêté ? On ne sait pas.
Et toutes ces petits Briançonnais, on peut consulter bien sûr aux archives municipales de Briançon.
Bien sûr, oui, il n'y a aucun souci. Vous pouvez venir consulter ces journaux.
C'est la fin de ce magazine. À bientôt François pour un nouveau Force 7.
Merci Olivier, à la semaine prochaine.